à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos. Andrei Makin, connu entre autres pour son livre « Un testament français », vient de sortir « L'archipel d'une autre vie chez le Seuil ». Andrei Makin, le plus russe des écrivains français, a été élu à l'Académie française en mars 2016. Voici un extrait de « L'archipel d'une autre vie ». À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars. Pour toutes les autres manières d'apparaître ici-bas, exister allait me suffire. Je m'éloignais du rivage quand un hélicoptère rompit la somnolence brumeuse du matin. Le seul vol de la semaine pour la petite localité de Tougour, ce coin perdu de l'Extrême-Orient. Les passagers descendirent, chargés de valises, de cabas, de rouleaux, de tapis. Un bref chaos se forma entre ceux qui venaient de débarquer et ceux qui, groupés sur le lieu d'atterrissage, s'apprêtaient à monter dans l'appareil. Une femme racontait sa sortie au cinéma. Un événement. Un homme calait dans son sidecar un lit pliant. Une nouvelle venue, frissonnant sous ses vêtements légers, se renseignait auprès des autochtones. Je décidai d'attendre que tout le monde soit parti avant de me remettre en marche. Et c'est alors que j'aperçus cet arrivant-là. Assis au pied d'un rocher, il vérifiait son paquetage dont les sangles fixaient des skis de chasseur, très courts et larges, recouverts de camousse, la peau dure des pattes de renne. Ici, la neige pouvait happer le voyageur, même en été. Voyageur, je devinais qu'il ne resterait pas au village ni ne poursuivrait le vol. Son but était ailleurs. Cette pensée m'unit à lui, tel un secret partagé. Nous voyons le même dessin cendré des monts, le soleil dans des éclats de coquillages et sous un amas d'algues, ce bloc de glace qui bravait la tiédeur de juillet. Je me sentis très proche de cet inconnu. Pourtant, son mystère résista. Une identité plus complexe que celle d'un simple trappeur de la taïga. L'hélicoptère vrombit. Souffla une volée d'aiguilles de pin, s'envola, devenant vite une petite encoche au-dessus de la mer. L'homme se leva, endossa son fardeau, densauta pour mieux l'équilibrer, sans remarquer mon guet au creux d'une dune. Se détournant de la bande côtière si utile dans ces contrées sans route, il rejoignit la forêt, cherchant à se rendre tout de suite invisible. Je suivis le sillage de ses pas, le craquement d'une branche, une tige couchée. Il laissait peu de traces. Mon arrivée à Tougour une semaine auparavant semblait confirmer le jugement que les soviétologues portaient à l'époque sur la Russie et son communisme vieillissant qui coïncida avec notre jeunesse. À la fin de l'année scolaire, notre classe fut coupée en deux et l'annonce tomba. Le premier groupe recevrait une formation de grutier, le second celle de géodésiste. Âgés de 14 ans, nous manifestions des aptitudes inégales et malgré le nivellement de la vie en orphelinat, on trouvait parmi nous des surdoués et des cancres, des stakhanovistes teigneux et des fainéants convaincus. Un oukase du parti aplanit ces différences. De la Sibérie centrale, on nous expédia à 3000 km à l'est, en Extrême-Orient, où un chantier avait besoin d'apprentis grutiers et de géodésistes débutants. Embrigadement totalitaire, glosaient les soviétologues, la dictature qui nie l'individualité humaine. Oui, sans doute. Sauf que nous le vivions non pas en théorie, mais dans la chair de nos âmes, pleines d'insouciance et de chagrin, de soif amoureuse et d'espoir blessé. Notre départ se confondit avec l'éblouissement du ciel et les senteurs de la taïga renaissante. Rétifs aux doctrines, nous n'avions qu'une envie, nous enivrer de ce nouveau printemps, le meilleur de notre vie, pensions-nous. L'apprentissage débuta à Nikolaïevsk. Sur la rive gauche de l'Amour, à 1 heure du Pacifique, nous informa-t-on avec une pointe de fierté. La chance de voir l'océan ne se présenta pas, nous restions sur les berges de l'estuaire. De la géodésie, j'avais la vision d'un couple d'hommes, l'un tenant une barre graduée, l'autre collant son œil à un appareil d'optique fixé sur un trépied. Le stage enrichit peu cette idée sommaire, négligeant la précision du vocabulaire. Nos maîtres désignaient leurs outils comme « truc, bidule » ou plus emphatiquement « toutes ces conneries ». Ce flou didactique nous laissa le temps d'explorer le port, humant son air marin, si doux comparé aux rudes effluves continentaux de la Sibérie. Après le travail, il nous arrivait de voir nos formateurs dans une buvette à ciel ouvert, face au dock. Un soir, nous les y surprîmes en galante compagnie. Une femme à la chevelure d'un blond luminescent embellissait leur binôme que nous croyions indéfectible. Or, visiblement, elle venait de le briser, car le grand et le petit, selon leur surnom, s'affrontaient. Deux bouteilles vides traînaient par terre, à côté des bidules et du trépied. C'était une joute hautement professionnelle. L'un comme l'autre vantaient leurs exploits géodésiques. À les entendre, chacun aurait accompli des levées topographiques partout en Russie. Des sites défilaient de plus en plus improbables. D'un palais des sports à une base navale, d'un stade olympique à un stade de lancement de fusées. L'invité sirotait son vin avec un sourire énigmatique. Et nous, enfin, nous apprenions la terminologie. Dans leur mâle émulation, nos pédagogues mentionnaient le goniomètre, le tachéomètre, le théodolite. Il était difficile pour une femme de les départager. Le grand avait de la prestance, tandis que le petit portait une veste de cuir, ce qui assurait à un russe d'alors un réel statut mondain. « Moi, je vais travailler avec les Japonais, lâcha le grand, un lever pour un débarcadère. » L'impudent mensonge d'une telle embauche enragea le petit. « Toi, avec les Japonais? Mais tu ne sais même pas par quel bout tenir un graphomètre. » L'outrage était monstrueux. Le grand se leva, empoigna son rival, le frappa. Celui-ci évita la chute, mais glissant sur une bouteille, exécuta un assez long jerk, involontairement lubrique. Les clients s'esclaffèrent. La blonde dulcinée émit un ricanement. Le petit s'empourpra et la situation dérapa. Il saisit le trépied muni de piquets en acier et avec un cri rauque le planta dans la poitrine du grand. Le craquement des côtes fracassées fut suivi d'un « ah !» du public puis d'un silence. Le grand repoussa l'arme tombée à ses pieds et le visage grave déboutonna son treillis ouatiné. Il fourra la main. Nous nous levâmes pour mieux voir les débris d'os et de chair qui allaient en extraire. Sa main réapparut. Elle tenait un calepin dont la couverture en moleskine portait 3 impacts profonds. Le carnet où il notait nos résultats. Les spectateurs se sentirent vaguement déçus. Alors le grand souleva le trépied, écarta ses supports et soudain, d'un geste précis, serra dans leur angle le cou de son ennemi. Le petit s'affala, tenta de défaire l'étau, se débattit, mollit. Un râle expulsa sa langue brunie par le vin. Les hommes bondirent en renversant leurs chaises, les femmes vagirent, et la dame de la discorde se sauva, nous laissant un nuage sucré de parfum et l'éclat fulgurant d'une cuisse dans la fente de sa jupe de velours. Déjà les lourdes paluches des dockers relâchaient le garrot. À côté de ces hommes aux gros muscles noueux et tatoués, le grand avait l'air d'un intellectuel raffiné. Nous passâmes la soirée à rejouer le pugilat, rire, torgnole, moleste, visant la blonde séductrice. Notre cirque trahissait pourtant un malaise. Non que ce désastre pédagogique à la buvette eût pu nous traumatiser, nous étions habitués aux émois plus âpres, mais ce duel burlesque cachait un double fond. La nuit, mon voisin de dortoir Nous logions dans une ancienne fabrique de filets de pêche. Un gars chétif, peu apprécié des autres, poussa un sanglot, la tête enfouie dans l'oreiller. Ses larmes contraires à nos durs codes d'honneur pouvaient lui attirer notre mépris. Pourtant, personne ne broncha. Nous savions que son père était mort dans un camp, pas si éloigné du lieu de notre stage. À la différence de nous qui affabulions, pour nos parents disparus, des destins de héros, ce garçon disait la vérité. Le permafrost, empêchant d'enterrer les prisonniers morts en hiver, on les stockait tels des bûches gelées jusqu'au redoux. Son père avait attendu ainsi sa sépulture printanière. Il restait parmi les vivants, on pouvait venir à lui, le réveiller, devait se dire notre camarade dans son enfance. Cette nuit-là, ses larmes avaient pour cause le combat bouffon de nos maîtres. Une vie stupide, théâtrale, au désir inlassablement renouvelé, et qui ignorait le prisonnier endormi sous un linceul de glace. La mécanique du monde. Se disputant une femme, les hommes étalaient leurs atouts. Taille d'athlète, statut professionnel, billet de banque à l'effigie de Lénine ou, le cas échéant, ce trépied écrasant la pomme d'Adam d'un rival. Je venais de comprendre cette machinerie fruste de l'existence. Nos maîtres l'avaient dévoilée à leur modeste niveau, celui de pauvres bougres d'arpenteurs prêts à tout pour coucher avec une blonde oxygénée. Mais le reste de l'humanité, et oui, le même jeu de vainqueurs et de vaincus. Le grand et le petit n'avaient que leur trépied comme arme. Les autres disposaient de canons, de richesses, de pouvoir, de camps. Tout gravitait donc autour d'une belle cuisse féminine, universelle comédie de rivalité, de séduction, de haine muette et de mensonges volubiles. Et cet agréable moment de détente dans une buvette au bord de l'amour, et cet enfant qui pleurait son père dont il n'avait pas su rompre la glaciale léthargie. Ce fut cela ma vraie leçon de géodésie. Le lendemain, je perdais l'envie de vaincre. Les plus combatifs de notre groupe gagnèrent le privilège de poursuivre leur stage à Nikolaïevsk. D'autres furent dispersés dans des localités environnantes. Je me trouvais seul à devoir aller à Tougour, la destination la moins prisée de la liste. Nos formateurs ne montraient aucune hostilité réciproque. Sans doute avaient-ils fait la paix des braves autour de leur dernière bouteille. Le grand cita nos noms de famille d'après son carnet troué et, ignorant la cocasserie de la situation, nous conseilla d'enduire les piquets du trépied avec de l'antirouille. Tougour, à 2 heures d'hélicoptère, me faisait imaginer un vaste littoral vide s'ouvrant sur un au-delà grandiose, la houle infinie du Pacifique. À notre âge, nous rêvions tous aux fabuleux Mirovia et Pantalas. À l'arrivée, personne n'étant venu me chercher, je me précipitai sur le rivage. Le jour se levait, et n'en croyant pas mes yeux, je courus entre les dunes à la recherche de la démesure espérée du vertige océanique. En réalité, Tougour se trouvait dans le cul-de-sac d'un golfe serré entre des reliefs montueux et débouchant, je l'apprendrai plus tard, sur une modeste mer intérieure qu'un petit archipel séparait de la mer d'Okhotsk, elle aussi à l'écart du Pacifique. Ce qui s'offrait à moi était très beau, grève de sable, embouchure de plusieurs rivières, miroir des étangs et aucun Mirovia à l'horizon. Le village d'une centaine d'habitants pouvait bien se passer d'un stagiaire. L'équipe de géodésistes à laquelle je devais être rattachée avait été retenue à Nikolaïevsk, la ville que je venais de quitter. On m'installa dans une bicoque à moitié occupée par une taillanderie et l'on m'oublia. Léonora Miano a reçu le prix Goncourt des lycéens pour son livre « Contour du jour qui vient » chez Plon en 2006. En 2013, elle remporte le prix Femina pour « La saison de l'ombre » chez Grasset. Son 8e roman qui vient de sortir s'appelle « Crépuscule du tourment » chez Grasset. Léonora Miano possède une puissance d'incarnation, nous explique la revue Lire. Ici, il s'agit d'une composition à quatre voix qui s'adresse au même homme. Voici un extrait du Crépuscule du Tourment. Madame, chapitre 1. On étouffe comme avant l'orage. Il approche, prend son temps, strie le ciel d'éclairs soudains et espacés, lance sur nos existences d'indéchiffrables imprécations. Le tonnerre s'apprête en coulisses, on l'entend, qui prépare ses grondements pour tout à l'heure. Ce ne sont encore que des roulements sourds. La mer du monde doit faire, en cet instant, quelques discrets gargarismes. Sous peu, sa voix se fera puissante, mais qui saura en décrypter les arrêts ? On a beau écouter, on n'entend que ce qui est au fond de soi. Le temps viendra pour que la divinité révèle la vérité, approuve ou non notre conduite sur la terre des vivants. Avant cela, avant qu'il ne faille quitter cette vie pour nous fondre dans l'autre, nous sommes responsables de notre destinée. Je ne serai pas accusé de m'être dérobé. L'air est aussi pesant que les anciens fardeaux, ces blessures souterraines dont on ne guérit pas. Les tenir secrètes, ce n'est pas seulement se garder de les dire, c'est en quelque sorte les nourrir. C'est à l'ombre que s'épanouissent certaines douleurs. C'est dans le silence que fleurissent ces obsessions qui deviennent le moteur et le tracé de nos existences. Je sais nommer l'épine qui logeait en moi depuis le plus jeune âge et ma torture et ma boussole, ma véritable identité. Je connais les raisons qui me poussent et ne me raconte jamais d'histoire à ce sujet. Entendons-nous. Que tout parte d'une fêlure ne signifie pas que j'ai tort. Notre plaine côtière, notre pays ont leurs usages, leur compréhension des choses. J'ai fait avec. Il m'a fallu de la finesse, de l'habileté, de l'attention en permanence pour longer cette faille en évitant la chute. Et je n'ai dérapé qu'une fois ou deux. J'étais une toute jeune mariée, une femme encore un peu sentimentale. Il n'y a pas de place pour la romance, pour les mièvreries dans la vie des femmes d'ici. Sous ces latitudes où le ciel n'est ni un abri ni un recours, être femme, c'est mettre à mort son cœur. Si l'on n'y parvient pas, il faut au moins le museler. Qu'il se taise, le tenir en laisse, qu'il ne nous entraîne pas où bon lui semble. Le dresser à n'obéir qu'à la raison, les robes à fleurs, les corsages à bretelles, le trait de côle bordant les paupières baissées, ce lent déhanchement sous le soleil ou sous la pluie et ce parfum qui flotte dans notre sillage sont les pièces de l'appareillage derrière lequel le cœur ne bat que pour lui-même. Nous ne crions ou ne pleurons que pour faire diversion. Nos chagrins véritables ne s'exposent pas, ne s'énoncent pas. Celles qui ouvrent leur cœur s'en mordent les doigts. Il n'y a pas d'exception. Être femme en ces parages, c'est évaluer, sonder, calculer, anticiper, décider, agir et assumer. Ne s'appuyer que sur soi. La confiance est un risque à ne pas prendre et la chance, un animal rusé qui s'attrape au lasso après qu'on l'ait traqué de nuit, de jour, au péril de sa propre vie. Parfois épuisé par l'attente, l'effort, la lutte avec la bête qui ne se laisse pas prendre sans combattre, on ne peut plus la savourer, la chance. On la regarde dans les yeux pour s'apercevoir qu'on ne la désire plus, qu'il n'est plus temps. L'amitié est conditionnée. Elle n'est pas un lien affectif, mais social. Les amis sont ceux qui peuvent rendre service. Il faut donc, soi-même, avoir quelque chose de concret à offrir. On n'est pas auprès des gens, encore moins avec eux, uniquement pour le plaisir, la joie du partage. La sororité est affaire de classe. Comme dans les familles de sang, on ne choisit pas les membres du groupe. La différence ici réside dans la possibilité de répudier les contrevenantes aux lois non écrites, non formulées, mais connues de toutes. Jadis, on faisait d'abord partie d'une génération sans distinction de rang social. Les temps ne sont plus de cette initiation collective qui imposait aux filles d'une même classe d'âge respect et solidarité. Je n'ose parler d'amour. Il en fut pourtant question, sous diverses formes, mais nous l'avons oublié. Nous ne savons plus les caresses échangées entre jeunes initiés dans le secret de la case commune. Les femmes de mon époque ne connurent pas la proximité, l'intimité de cet apprentissage. Jamais nos aînés ne nous massèrent le clitoris pour nous faire visiter le royaume dont nous seules serions souveraines. Jamais elles ne nous dirent que l'équilibre affectif reposerait sur notre capacité à nous épanouir auprès de l'un et l'autre sexe, sans exclusivité. Elles ne nous révélèrent pas que, pour chacune, il devait y avoir non pas un, mais deux couples. Nos aînés ne nous apprirent pas à faire l'amour à une femme, à le découvrir d'abord dans les bras, dans le souffle, dans les humeurs d'une femme. Savait-elle que les femmes n'habiteraient plus que nos désirs inavoués, que ces derniers nous épouvanteraient tant que nous les réprimerions avant de les avoir vraiment éprouvés? Savait-elle que dans un monde régi par une puissance masculine mal ordonnée, les femmes ne pourraient être que rivales, n'employant leur force qu'à séduire, à ferrer, à tenter de conserver ce pantalon sous leur toit? Elle ne l'ignorait pas. C'était ainsi qu'elles-mêmes avaient vécu, puisqu'elles étaient descendues avant nous dans le Séol qui ne dit pas son nom, ce culte qui ne célèbre que le Père et le Fils. Jamais nos aînés ne nous approchèrent, esquissant devant nous, puis tout contre nous, les mouvements d'une danse lascive, pour nous montrer comment nous comporter avec nos hommes. Savait-elle qu'il n'y aurait pas d'homme pour nous, au sens premier et plein de ce terme? Le patriarcat ne sème de par le monde que des mâles. Peu d'hommes parviennent à arracher le principe masculin à l'étroitesse d'une virilité ayant pour totem le phallus. La puissance de ceux qui devaient être nos hommes fut ensevelie en un lieu dont nous ne possédons pas la clé. Leurs pères s'automutilèrent en se laissant corrompre par la pauvreté de spiritualité pour lesquelles la divinité était masculine, donc incomplète. L'émasculation se mit en marche quand ils renoncèrent à leurs archétypes, pensant acquérir un pouvoir qui ne leur fut pas remis et qu'ils ne purent transmettre. Lorsqu'ils reçurent ces armes à feu, ce fut pour les retourner contre eux-mêmes. Lorsqu'ils goûtèrent ces alcools forts, ce fut pour déposer leur esprit au fond de la bouteille. Lorsqu'ils se vêtirent à la manière de leurs faux amis, ce fut pour faire prospérer les industries du Nord. Si les pères de ceux qui devaient être nos hommes se sont à ce point égarés, faut-il que les femmes leur aient fait défaut? L'univers s'appuie sur deux énergies. Il faut que nos aïeules aient failli pour que leur voix ne porte plus, pour qu'elles aient été abaissées au rang de servantes, pour qu'elles n'aient plus existé qu'à travers la maternité, à condition d'ailleurs de mettre au monde des enfants mâles. S'il y eut de leur part une faute, elle nous est inconnue, mais nous en supportons le châtiment depuis des générations. De l'aube à l'aube, mortes nous-mêmes, en esprit, nous ne faisons que veiller sur de dépouilles. Enfin, celles d'entre nous qui veillent encore. J'ai quant à moi pris un congé bien mérité, le repos de la guerrière, le mort-vivant qui longtemps remua en ses murs a trouvé un ailleurs où traîner ses chaînes rouillées, l'insanité de sa présence au monde. Je ne lui reproche pas son état, mais à lui comme à ses congénères, j'en ai voulu de s'y être accoutumé. S'y gisent les descendants de ceux qui se laissèrent ravir la voix, ceux qui se laissèrent subjuguer. C'est ainsi qu'ils furent défaits, et nous avec eux. Je ne parle pas d'or, d'argent, de pétrole. Je parle du sens et de la valeur donnée à sa propre existence. Je parle de ce qui ne peut être récupéré qu'au prix de lutte sans concession avec soi-même. Ce qui nous fume jadis est désormais consigné dans les ouvrages d'anthropologie, d'ethnologie, quels qu'en soient les auteurs. la vérité côtoie le mensonge. Le continent et ses peuples sont des fantasmes, des fantaisies, pour eux-mêmes et pour les autres. Ici réside la fascination et le fasciné, ici est la fatuité, une béance. Chacun la remplit selon ses besoins, ici demeure le silence intense. Ce que nous fûmes jadis traverse nos songes, nos émotions comme un éclair dont la vivacité strie les nuages. Cela se déroule parfois si vite que nous le voyons à peine. Il n'y a que cette impression d'avoir senti passer quelque chose de fort. Mais qu'était-ce ? Nos existences sont des questions sans réponse. Nos aînés nous envoyèrent à l'église, au temple. Le corps contraint par des tenues ajustées à la taille, les seins emprisonnés dans les armures métalliques du soutien-gorge, les orteils enroulés dans des souliers à brides, la tête couverte de chapeaux dans nos milieux en particulier. Dans l'enceinte des chapelles, le foulard pouvait se porter à l'occasion d'obsèques. La plupart du temps, il était la marque d'une basse extraction. On se présentait plus volontiers en cheveux, faute de posséder le couvre-chef adéquat pour pénétrer dans la maison de Dieu. Nos aînées furent rigides et distantes, parfaitement victoriennes. Ayant à cœur de se venger des violences subies, elles furent sévères et brutales. En parole comme en action, n'eurent plus à nous transmettre que la robe créée par l'épouse d'un missionnaire d'Angle-Saxe, le livre d'après lequel Dieu n'avait pas eu de fille. De leur temps déjà, on avait couvert sa nudité, on s'était massé dans les églises, on priait depuis In nomine Patris. On saluait la Vierge, l'Immaculée, qu'une prophétie avait rendue grosse. Elle non plus n'avait pas eu de fille. Yasmina Kadra, ce romancier algérien, vient de sortir « Dieu n'habite pas la Havane » aux éditions Julliard, roman inspiré par un voyage effectué à Cuba. Je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée pour Castro qui vient de faire ses adieux. Voici un extrait de « Dieu n'habite pas la Havane ». Oui, chapitre 1er. Qui rêve trop oublie de vivre, disait Panchito. J'incarne mon propre rêve, pourtant je croque la vie à pleines dents sans en perdre une miette. Je cherche toujours le bon côté des choses, car elles en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein, une forme de sourire par-dessus la grimace et la colère comme un enthousiasme dénaturé. Le monde n'est pas obligé d'être parfait, mais il nous appartient de lui trouver un sens qui nous aidera à accéder à une part de bonheur. Il y a immanquablement une issue à n'importe quelle mauvaise passe. Il suffit d'y croire. Moi, j'y crois. Mon optimisme, je le cultive dans mon jardin potager. Je me suis éveillée à la joie de vivre dès l'âge de 5 ans. Quant aux années qui précédèrent, je ne m'en souviens pas. Je suis certain qu'elles furent formidables, puisque mes parents l'étaient. Ma mère était choriste. À Trinidad, sa ville natale, on la surnommait la sirène rousse. Elle était un ravissement, avec sa peau de nourrisson, ses cheveux flamboyants qui cascadaient jusqu'à ses fesses et ses yeux verts, brillants comme des émeraudes. Lorsque mon père l'entendit chanter pour la première fois, il fut conquis corps et âme. Il l'épousa dans la foulée. Leurs noces se réinventaient chaque soir, leurs étreintes les scellaient. Il leur suffisait de se regarder pour que les aurores boréales se substituent à leurs prunelles. Rarement amour aura été aussi fort. C'était l'amour des gens simples qui, se sachant faits l'un pour l'autre, deviennent à eux seuls le monde. Mon père était un grand et beau mulâtre, prodigieux fruit du croisement improbable d'un aristocrate lituanien en exil et d'une enfant d'esclave affranchie. Il avait hérité de l'un les bonnes manières et de l'autre l'endurance. avec son vieux costume repassé méticuleusement, son chapeau au ras des sourcils et ses souliers cirés de frais, il aurait pu passer pour un prince de la nuit. Quand bien même il ne parvenait pas à joindre les deux bouts, il ne nous refusait pas grand-chose, à ma sœur aînée et à moi. Il disait « Être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Être pauvre, c'est manquer de générosité. » Il aurait donné sa dernière chemise au premier venu. Le jour, il vivotait de petits boulots. Le soir, il trimait occasionnellement dans un bastringue pour un salaire de misère, avant de décrocher un emploi comme chauffeur de maître. Il avait conduit Lucky Luciano, qui possédait un hôtel sur le front de mer, puis un dénommé Brutus, l'une des plus grosses fortunes de Cuba, forcé de déserter l'île au lendemain de la chute de Batista. Lorsque la révolution éclata, mon père se planqua à la maison durant des mois, non par peur, mais par principe. Pour lui, se sacrifier était la plus grande injustice que l'on puisse s'infliger. Mourir pour un idéal, arguait-il, c'est confier cet idéal aux usurpateurs. Les orphelins auront beau les réclamer, personne ne leur rendra. Mon père ne croyait pas dans les idéologies qui relèvent plus de l'élevage que du lavage de cerveau, ni dans les révolutions qui se contentent d'inverser les tyrannies au lieu de les renverser, ni dans les guerres aux mémoires courtes qui font croire qu'il y a des causes plus précieuses que l'existence, ce qui le révoltait par-dessus tout. Il aimait la vie, avec ses hauts et ses bas, ses miracles et ses imperfections, ses kermesses et ses minutes de silence. Mon père était capable de composer un songe à partir d'une volute de fumée. Il profitait de chaque fête comme si c'était la dernière, persuadé que nos rares mérites sont les moments de joie partagés avec les êtres que nous chérissons et en dehors desquels le reste n'est que concession. C'est lui qui m'a appris à faire d'un sandwich un festin. C'est encore lui qui m'a certifié qu'être un homme, un vrai, revient à ne pas essayer d'être autre chose que soi-même. De cette manière, au moins, on ne trompe personne. Le seul conseil qu'il m'a donné est « Vis ta vie ». D'après lui, c'était l'unique conseil sensé. Dans les années 1950, il m'amenait écouter les rois du boléro, de la guarira, de la charanga. Je découvris ainsi cette sacro-sainte charité humaine sans laquelle le monde ne serait qu'un chahut démentiel, la musique, ce don magnifique que Dieu envie aux hommes. Défilaient dans les guinguettes assiégées Celia Cruz, Eduardo Davidson, Pérez Prado et toute une clique de musiciens chevronnés, fabuleux. À l'époque, la Havane ne dessoulait guère, les cabarets vibraient au rythme du cha-cha-cha, le mambo ensorcelait les noceurs et les rues grouillaient de trovaderos et señoros, paumés en quête de gloire. Je me souviens, au sortir des nightclubs, que des femmes pimpantes et éméchées se laissaient embarquer dans des bagnoles colossales en riant aux éclats. Dans les casinos aux enseignes rutilantes, les nababs claquaient leur fric sans compter, et au fin fond des quartiers défavorisés, y compris le plus pauvre d'entre eux, Santos Suarez, il y avait partout, sur le pas des portes ou à même le trottoir, des insomniaques inspirés en train de taper sur des caisses de morue. La Havane était le paradis des gros bonnets de Floride, des familles de Baltimore, des bootleggers en rupture de stock et des parrains convalescents. Les cercles mondains se voulaient citadelles imprenables où n'étaient admis que les cols blancs. Cependant, malgré la ségrégation qui frappait jusqu'à nos gouvernements, il ne nous était pas interdit, à nous les Afro-Cubains, de fantasmer à la périphérie des liesses arrosées. On avait le droit de crever de faim, mais pas celui de bouder l'écho des percussions. Un soir, dans une salle archibondée, j'avais assisté à un concert d'El Barraro del Ritmo, l'inimitable Benny Moré. Quel choc! Je venais de rencontrer mon prophète. J'avais 10 ans, et donc toute la vie devant moi pour faire de la musique mon culte et de chaque partition une messe. C'est ainsi que je suis devenu chanteur. Je m'appelle Juan del Monte Jonava et j'ai 59 ans. Dans le métier, on me surnomme Don Fuego parce que je mets le feu dans les cabarets où je me produis. C'est ma mère qui m'a initiée au chant pendant qu'elle me portait dans son ventre. À mes naissances, mes cris retentissaient d'un bout à l'autre de l'hôpital. On raconte que les infirmières me pinçaient les oreilles pour me forcer à pleurer, émerveillée par la pureté de ma voix. Les sceptiques trouveront que je force un peu le trait. Ils ont le droit de le penser. Je ne fais que consigner ici ce que l'on m'a raconté. Ma carrière pourrait se résumer à mon répertoire de standards, c'est-à-dire aux chansons que j'emprunte aux autres, car, malgré ma virtuosité, je n'ai pas réussi à intéresser un parolier ou un compositeur. Je connais tous les succès de la rumba et du son que j'interprète avec brio. Mais personne ne m'a gratifié d'un texte qui soit à moi, rien qu'à moi, avec mon nom gravé sur le disque. Bien sûr, j'aimerais éditer un tube avec ma photo sur la jaquette, survolter les troquets avec mes chansons à moi ou écouter distraitement ma musique dans un taxi tandis que le chauffeur perd de vue la route à force de se demander si c'est moi ou un sosie. Hélas, les choses fonctionnent au gré des sonates qui nous échappent. Dire que ça me passe au-dessus de la tête, ce serait mentir sans vergogne. Je suis un artiste né. Le statut de doublure me frustre cruellement quand, en me contemplant dans la glace, je me trouve une belle gueule, franche, qui mériterait de vrais lauriers. Cependant, je me ressaisis. Si je n'ai pas mon nom en haut de l'affiche, ça n'ôte rien à mon talent. Lorsque je tiens un micro dans mon poing, j'accède d'office au nirvana, ce que je suis avant de monter sur scène et ce que je deviens à l'instant où la salle se vide m'importe peu. Je rentre chez moi si épuisée et ravie que je m'endors avant que ma tête touche l'oreiller. J'ai connu des périodes euphoriques dans ma jeunesse, quelques encadrés dans la presse. C'est d'ailleurs à un journaliste que je dois mon surnom. J'ai interprété « Hasta siempre » devant Fidel. J'ai chanté 2 fois à l'anniversaire de Gabriel Garcia Marquez, ainsi que pour un tas d'oligarques soviétiques en visite officielle sur l'île. J'ai même figuré dans un film aux côtés de la divine Mirta Ibarra, avant d'être coupée au montage pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui, bien que je ne draine pas les foules, la ferveur n'a pas baissé d'un décibel. Je travaille au Buena Vista Café, jadis Buena Vista Palace, si cher aux flambeurs de Cincinnati, que la révolution castriste a rétrogradé au rang de café pour la bonne cause prolétarienne. L'endroit garde encore les vestiges de son lustre d'antan, avec sa façade impériale lambrissée de marbre, son perron à colonnades, sa pelouse sous les cocotiers et son vaste hall tapissé de miroirs, sauf que l'entretien et les prestations de service laissent à désirer. Certes, le public a changé. Il est constitué d'anciennes groupies de touristes âgés, amateurs de gros cigares et d'adolescentes effrontées. N'empêche, je demeure le saint patron des soirées enfiévrées, le conjurateur des vieux démons. Il me suffit de me racler la gorge pour que les gens divorcent d'avec leurs soucis et se lancent sur la piste. Il faut me voir sur scène avec mon panama enrubanné rouge sang, ma queue de cheval et ma dégaine. Lorsque je penche du buste en m'appuyant sur une jambe et en battant la mesure avec le bout de mon pied, la chemise ouverte sur le duvet de mon torse musclé, il arrive parfois à ces dames de tomber dans les pommes. Si les gens continuent de fréquenter le café, c'est grâce à moi, Don Fuego, le souffle incendiaire des Caraïbes. Chanter, c'est ma vie. Je suis une voix. Ma tête, mes jambes, mes bras, mon cœur, mon ventre n'en sont que des accessoires de fortune. Ce soir, comme ceux qui l'ont précédé et assurément ceux qui vont suivre, je me sens d'aplomb. Il ne fait pas trop chaud pour la saison. Le couchant est une pure merveille et à en juger par l'armada de taxis sur le parking du Buena Vista Café, il va y avoir des bousculades sous les feux de la rampe. J'en frémis d'aise. « Le directeur veut te voir après la soirée », m'annonce Louis, le portier. D'habitude, le directeur me reçoit avant le spectacle, juste pour tailler une bavette, tant il se barbe dans son cagibi. Je reviens sur mes pas, soulève un sourcil et cherche à coincer le regard fuyant du portier. « Tu es sûr qu'il a dit « après » et pas « avant » ?»« J'ai quelques molaires qui manquent à l'appel, mais mes oreilles sont intactes. » Il se débine toujours au beau milieu du spectacle. Pourquoi est-il obligé de veiller ce soir? Tu penses qu'il a un problème? J'en sais rien et je m'en fiche, grogne-t-il en courant intercepter un taxi. Céline Minard sort le grand jeu aux éditions Rivage. Le grand public découvre Céline Minard en 2013 avec le western féministe Faillir être flingué, salué entre autres par le prix Livre Inter. Et voici un extrait du « Le grand jeu ». Les cinq hommes sont repartis avant que le soleil ne passe derrière la montagne. Le pilote préfère éviter les vols de nuit et les 8 voyages qu'il a effectués aujourd'hui avec ses longues minutes de stationnaire précis ont requis suffisamment son attention pour qu'il ait envie de se détendre dans la vallée. Les 4 techniciens étaient dans cet état de fatigue euphorique que procure le travail accompli. Ils ne pensaient qu'à redescendre, prendre un peu de repos, retrouver leur foyer. De mon côté, je n'aurais pas apprécié outre mesure de voir leur offrir l'hospitalité, et peut-être l'ont-ils senti, ce qui est sans importance. J'ai confié au pilote l'ultime paiement, en espèces, qui met un terme à mon projet qui n'en est plus un, puisqu'ils m'ont aidé à le réaliser. Ils n'auront pas à revenir pour accorder les panneaux photovoltaïques aux batteries. Je le ferai moi-même pour l'ensemble de la structure et pour le module sanitaire installé quelques dizaines de mètres plus bas. Quand le bruit de l'hélicoptère a été absorbé par la distance, j'ai senti l'épaisseur de l'air et j'ai pu voir le tube de vie dans lequel je vais désormais m'abriter et passer mes jours, si ce n'est mes journées. Il est à demi appuyé, à demi suspendu à un éperon granitique. On dirait le fuselage d'un avion posé en équilibre entre le vide et la pierre. Mais je sais qu'il est solidement arrimé à son rail d'acier, lui-même fixé et boulonné sur 2 mètres d'épaisseur de roche forée. C'est mon tonneau, le tonneau dans lequel je vais vivre, dont la coque est faite d'un assemblage de résine, de fibres de verre et de PVC haute densité. Une porte, 3 hublots latéraux et l'œil de bœuf panoramique qui donne sur le vide vers la vallée sont les 5 ouvertures qui me permettront d'observer et de respirer le monde extérieur quand je serai dedans. Ensevelis sous la neige, inondés de lumière, lessivés par la pluie, asphyxiés de brouillard. Le reste de la structure est tapissé d'un isolant thermoréfléchissant qui me renverra ma propre chaleur, combiné à celle que développeront dès demain les batteries reliées aux panneaux photovoltaïques, elle suffira à maintenir une température de 20 à 21 degrés constant. Selon mes calculs, en admettant que je puisse déneiger quotidiennement 1/3 de la surface des panneaux, je pourrais tenir un hiver de 6 mois à une moyenne de moins 40 degrés, ce qui est largement au-dessus des normes de la région à cette altitude. La plaque de cuisson est conçue pour fonctionner de 2 à 3 heures par jour. Couplée au dispositif qui permet de fondre et de traiter la neige, elle consommera 20 à 25% de l'énergie produite. Tous les éclairages sont des LED intégrés à la paroi. Une batterie est dédiée à la recharge d'un ordinateur ou d'un téléphone cellulaire, en cas d'urgence. J'ai dessiné la bibliothèque, la couchette, les assises et la table. Ces éléments sont partie prenante de la structure. La table peut se rabattre et glisser dans un rail sur toute la longueur de la pièce. Les assises latérales, situées de part et d'autre de l'œil de bœuf, sont amovibles. La couchette est fixe. La bibliothèque également, en partie. Un cube indépendant de 70 cm de hauteur peut faire office de table basse ou de siège. Il contient un coussin rond bourré de capoques et un tapis de 8 mm d'épaisseur. Deux placards intégrés sont destinés aux vêtements. La vaisselle est contenue sous l'évier. La carabine et les munitions sont sur le rayonnage au-dessus de la porte. Les skis se remisent en entrant dans le coffre vertical au-dessus d'un compartiment prévu pour contenir trois paires de chaussures. Un stand recevra mon violoncelle quand j'aurai renvoyé son étui rigide dans la vallée. Il est en bois de hêtre comme l'arrêt de pique. Il s'harmonise avec l'habillage de chêne plaqué, ignifugé et hydrofugé, des parois internes et du mobilier encastré. Les portes, comme dans un bateau, il faut lever le pied pour les passer. C'est une belle planque. Aujourd'hui a eu lieu la dernière rotation nécessaire à mon installation. J'ai commencé à remplir mes cahiers. Je suis en cours d'entraînement. Je m'entraîne. Je dois m'occuper, définir et traiter plusieurs points de névralgie. Je dois savoir si la détresse est une situation, un état du corps ou un état de l'esprit. On peut être accroché à une paroi à 3400 mètres d'altitude en plein orage nocturne sans être en détresse. On peut aussi, sous le même orage nocturne, se sentir au chaud au fond de son lit, au cœur de la détresse. On peut avoir soif, être fatigué, blessé, sans être en détresse. Il suffit de savoir que la boisson, la nourriture, le repos, le secours sont à portée de main, qu'on peut les atteindre plutôt facilement. L'effort n'est pas la détresse, mais il est souvent lié. Il suffit d'alimenter un alpiniste coincé depuis 2 jours sur une vire, sans eau ni nourriture, à la limite de l'hypothermie pour que disparaisse la détresse. Le corps recouvre ses forces, l'esprit reprend courage. L'environnement n'est pas un obstacle, ni un cercueil, ni une menace. De la même façon, il suffirait de le déplacer, le descendre de la vire en hélicoptère, pour que disparaisse la détresse, bien avant qu'il soit réhydraté et nourri. Comme il suffirait d'une parole capable de changer ses représentations mentales, du passé, du présent, de l'avenir immédiat, de sa place dans le monde pour que disparaisse la détresse. La seule limite est la mort. On pourrait dire aussi, l'esprit recouvre ses forces, le corps reprend courage, l'environnement n'est plus un obstacle, ni une impasse, ni un ennemi. Et pourtant, la situation géographique peut être à elle seule une occasion de détresse. On peut être en pleine possession de ses moyens physiques, avoir des représentations positives, accroché à une paroi à 3400 mètres d'altitude et risquer d'être foudroyé à tout moment parce que l'orage nocturne a décidé de se déchaîner précisément contre le bout de roche auquel on se tient. On peut être en danger sans être en détresse. Dans quelles conditions? Lorsqu'on maîtrise le danger, lorsqu'on a mesuré les risques qu'on a pris. Nous ne pouvons pas maîtriser la foudre, ni décider de l'endroit où elle frappera dans les secondes qui viennent. Mais nous ne sommes pas en détresse tant que nous ne remettons pas en question les décisions et les actions qui nous ont menés à ce moment-là de grands dangers. Le regret engendre la détresse. « Je n'aurais pas dû » est le début et le fond de la détresse. le conditionnel tout entier, ce temps révolu qui n'est même pas le passé, est le fondement et peut-être le créateur de la détresse, l'occasion qu'elle s'installe. Il faudrait voir ce que cette forme grammaticale entretient comme relation avec la culpabilité et comment. Un monde verbal peut affecter la production de glucocorticoïdes et jouer sur notre humeur. Le conditionnel introduit une illusion d'avenir à l'intérieur du passé. Il ouvre une brèche, un éventail de fantômes dans la nécessité des faits irréversibles qui ont déjà eu lieu. Il n'y aurait pas de détresse sans le conditionnel. La faim, l'épuisement, la douleur et la mort, si ça se trouve. Mais pas de détresse. Ou je me trompe? Les journaux avaient déjà publié de brefs articles sur l'achat de ce territoire dont personne ne s'était soucié de savoir à qui il appartenait puisqu'il ne produisait rien, ni en termes de biens, ni en termes de services, jusqu'à ce que la transaction ait lieu, que l'acte de propriété soit établi à mon nom et que l'ancien propriétaire ne le divulgue. Des journalistes locaux avaient alors fait des recherches, très incomplètes, ainsi que des hypothèses sur le destin que j'étais censé réserver à cet îlot de 200 hectares de roches, de bois, et de près au cœur d'un massif montagneux de 23 kilomètres carrés. Des coupes à blanc, des forages, un hôtel de luxe, un laboratoire vert étaient sortis de leur imagination, ce qui suffisait à disqualifier ces projets. Faute de pistes et de renseignements vraisemblables, l'intérêt des rédacteurs en chef et des lecteurs avait rapidement baissé au fil des semaines, jusqu'à ce que leur parvienne le bruit d'un chantier inhabituel. L'entreprise à laquelle je m'étais adressée pour la construction de mon habitacle ne pouvait pas se passer d'une publicité de cette envergure et avait fait circuler avec mon accord des plans succincts de ce qu'on allait très vite appeler l'OVNI. Toutes les précautions légales ayant été prises bien en amont, personne, aucune association de défense de l'environnement, aucune autorité locale, aucune personne réelle ou morale, aucun État ne fut donc en mesure de ralentir les travaux ni d'en empêcher la mise en place. J'ai fait moi-même les images de l'héliportage et du montage des modules. J'en ai sélectionné quelques-unes ainsi qu'un film HD de 3 minutes, monté et sonorisé, que j'ai mis à disposition de l'entreprise pour leur communication externe. Les journaux ont mis un point d'interrogation à leur titre. La taxe sur la pollution visuelle va-t-elle enfin s'imposer? Maison autonome et héliportage, une contradiction écologique? Architecture et argent, le cocktail infernal? Je ne suis pas millionnaire, je ne m'en soucie pas. La forme de la question n'est supportable que lorsqu'on se l'applique à soi-même. Tous les matins, il faut se souvenir qu'on rencontrera un ingrat, un envieux, un imbécile, tant qu'on est en position de croiser un homme. Tous les matins, il faut se demander « Qui suis-je ? Un corps ? Une fortune ? Une réputation ? Rien de tout cela. Qu'ai-je négligé qui conduit au bonheur ? Je ne suis pas montée, je suis descendue vers le lac, par la voie normale, c'est-à-dire en suivant le sillon rocheux de 600 mètres qui rejoint la pelouse par la transversale. J'installerai bientôt une corde fixe pour varier les approches. Plus il y a de chemin pour partir et pour rentrer chez soi, mieux ça vaut. Passé les derniers blocs, la pelouse alpine déroule sa pente, lisse et régulière, jusqu'aux abords des pins où elle rencontre des landines rases et des landes fraîches tapissées de rhododendrons. J'ai tour à tour côtoyé et suivi de l'œil le torrent pour le rejoindre à son embouchure sur la gravière qui borde ce côté du lac. L'eau glaciale, transparente, laisse voir les truites qui maraudent entre les pierres. Un gros tronc gris passe par-dessus le déversoir du torrent qui bouillonne en se jetant dans l'eau plane du chaudron. il est suffisamment large pour qu'on puisse s'y asseoir avec une ligne et une boîte de teigne en restant discrètement à couvert. Les poissons affectionnent les arrivées d'eau qui leur procurent une nourriture plus variée que celle des fonds. Je reviendrai.